Nous allons ouvrir nos Bibles dans la première épître à Timothée. Première épître à Timothée au chapitre 5. Timothée chapitre 5, donc vers la fin du Nouveau Testament. Nous en lisons les versets 3 à 16. 1 Timothée 5, versets 3 à 16. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le roule, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle se soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses, et intrigante, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants et qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'ils les assistent et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Un second passage dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 6 à 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 12. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres du Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste, irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous encourageant, vous adjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous abordons donc ce soir la deuxième partie, je ne dis pas la seconde parce qu'il y en aura sans doute une troisième, la deuxième partie de notre réflexion sur les priorités et l'équilibre dans l'éducation des enfants. Nous avons consacré la soirée du 10 février à une introduction générale pour souligner l'importance stratégique du thème que nous abordons, la manière dont la famille et les enfants, comme nous allons le revoir ce week-end, sont attaqués par la puissance des ténèbres. Et nous avons surtout passé beaucoup de temps le 11 dans nos deux études du matin et de l'après-midi à développer ce thème très important de l'éducation par l'exemple. Première des priorités absolument fondamentales dans l'éducation des enfants, éduquer par l'exemple. Trois cassettes sont à disposition des uns et des autres. À vous de les utiliser pour, le cas échéant, vous remettre certains aspects en mémoire, mais si nous ne voulons pas trop piétiner, nous allons devoir aller plus loin. Mais néanmoins, gardons dans notre esprit, même si nous ne nous souvenons pas de beaucoup de choses concernant le précédent séminaire, souvenons-nous de cette importance de l'exemple des parents, du refus de ce que nous avons appelé l'autorité de la casquette, simplement affirmer « puisque je suis ton père, puisque je suis ta mère, c'est comme ça que ça doit marcher, n'est-ce pas ?» C'est ce que nous avons fortement souligné. Nous devons, à partir de ce soir, nous pencher d'une manière toute spéciale sur une seconde priorité. Là encore, nous ne voulons pas jouer à saute-mouton et passer par-dessus des choses essentielles pour courir aux questions pratiques trop vite. Ce serait du mauvais travail et ce serait simplement viser le court terme et une mauvaise pédagogie. Donc, deuxième priorité fondamentale qui va de soi, bien qu'elle ne soit plus de mise aujourd'hui, et bien qu'elle pose, disons-le d'emblée, un grand problème, y compris dans nos églises, dans les églises évangéliques. Pour éduquer, eh bien c'est tout simple, il faut être présent. Pour éduquer, il faut être présent. Je pense à l'expérience faite par des physiologistes qui ont mis une grenouille dans un baquet d'eau, d'eau froide, qui ont placé ce baquet d'eau froide sur un foyer, sur le feu, et qui ont laissé donc la grenouille dans son bain d'eau froide, tandis que l'élévation de la température se faisait de manière graduelle. Sans que la grenouille n'en soit vraiment accommodée, cette dernière restant même dans la casserole lorsque l'eau se mettait à bouillir. La grenouille s'ajustait donc à la température qui montait progressivement, elle s'y adaptait, et finalement, elle mourrait totalement bouillie. Bien entendu, par contraste, on avait aussi placé une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, et elle avait battu le record du monde du saut en hauteur, y compris dans le domaine de la rapidité, dès le premier contact avec cette température très élevée. Pourquoi cette petite illustration? Eh bien, pour souligner que nous sommes actuellement, vous et moi, et le monde occidental dans son ensemble, plongé dans ce processus. Un processus subtil, parce que depuis un certain nombre d'années se produisent des changements de valeurs dans la société au fil de nouvelles lois, mais aussi de tous ceux qui précèdent les lois, qui les anticipent, pour obliger à ce qu'il arrive un moment où il faille les voter. Je pense au monde artistique, qui est toujours en terrible avant-garde sur les mœurs présentes de la société. Je pense aussi aux médias, qui sont un relais extrêmement fort pour banaliser ces phénomènes en pointe dans le domaine artistique. Et ces changements sont tellement graduels qu'on n'y fait pas tellement attention. On ne pense pas que chaque petite secousse dans ces domaines puisse être d'une grande importance. Et c'est ce qui fait que progressivement notre société s'adapte, s'ajuste à ces normes qui sont de plus en plus basses, et que nous ne nous rendons pas compte combien nous-mêmes nous sommes en train, peu à peu, de trouver normal des attitudes, normaux des comportements dans une société qui est en train de s'effriter, qui est en train de s'écrouler. Et c'est ainsi que les familles chrétiennes sont en train de plus en plus d'adopter des normes qu'elles considèrent très souvent comme spirituelles, comme bibliques, comme valables, comme authentiques. Parce qu'aussi, il arrive même que dans nos bons livres évangéliques, et je dis bon entre parenthèses, et dans nos bonnes revues évangéliques, des auteurs, hélas, aillent tout à fait dans le sens, de manière très subtile, s'appuyant sur des écritures qu'ils trafiquent, pour laisser croire qu'après tout, il faut bien que nous nous adaptions aux nouvelles normes de notre société. Et si j'ai dit ceci, c'est parce que nous allons en vérifier l'importance dans ce domaine que je viens d'annoncer, pour éduquer, il faut être présent. La présence avant les sous. C'est ce que nous avions d'ailleurs annoncé en février, à la fin de nos trois études. La présence avant les sous. Soulignons tout d'abord quelque chose de très important, savoir que le cadre biblique pour l'éducation des enfants est celui de la famille. Si vous lisez le livre des Proverbes, vous constaterez qu'on trouve, par exemple, 26 fois le terme « père », 13 fois celui de « mère », et le Nouveau Testament abonde dans le même sens en soulignant spécifiquement, d'ailleurs, la responsabilité du père dans l'éducation des enfants. Nous verrons aussi le rôle de la mère, mais notamment en Éphésiens 6, 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, les avertissant selon le Seigneur. » Puis vous avez des instructions concernant la mère dans 1 Timothée 5, 10, nous l'avons lu, « Qu'elle, c'est-à-dire la veuve, soit connue comme ayant élevé des enfants. » Nous reviendrons sur ces termes. Si je souligne ce soir que le cadre biblique pour l'éducation des enfants est celui de la famille, c'est pour mieux souligner que ce n'est pas la mission première de l'État. Et que ce n'est pas non plus, au risque de choquer, la mission première de l'Église. L'Église locale n'a pas reçu la mission première d'éduquer les enfants. La mission première de l'éducation des enfants est celle des parents. Et en particulier, nous verrons pourquoi, celle du père. Elle n'est donc pas non plus celle de la rue. Ce n'est pas à la rue d'éduquer nos enfants. Ce ne sont pas nos voisins qui sont chargés de l'éducation de nos enfants. Je le redis ce soir très simplement, c'est la mission des parents que celle d'éduquer les enfants. Et quand des enfants confient leurs enfants à l'une ou l'autre de ces institutions divines, que ce soit l'État, au niveau de la scolarité par exemple, ou bien même le milieu privé, que ce soit l'Église, quand la famille confie une partie de l'éducation des enfants à ces institutions n'ont qu'une responsabilité déléguée. Et cela veut dire que c'est aux parents sur lesquels repose la responsabilité ultime de l'éducation, qu'il appartient de contrôler, de rectifier et de compléter l'enseignement qui a été dispensé à leurs enfants. Ça ne met pas l'Église à un rang infâme, mais l'Église aussi peut se tromper. Les parents peuvent se tromper, mais l'Église aussi peut se tromper. Et on a vu des familles entières être entraînées dans des directions qui étaient profondément regrettables, tout simplement, parce que l'Église locale avait elle aussi pris des directions profondément regrettables. D'où la nécessité, Bible en main, pour des parents qui veulent vivre avec le Seigneur, de veiller toujours même à contrôler le travail de l'Église en matière d'autorité déléguée pour l'enseignement et la formation des enfants. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt un long article écrit par Evelyne Sullereau, dont on parle beaucoup depuis même quelques dizaines d'années. Elle est toujours un petit peu à la une dans le domaine de la famille, elle a écrit pas mal d'ouvrages, elle a été la fondatrice du planning familial, donc tout ce qui tourne autour du contrôle de la natalité par le couple. Le planning familial dans sa création remonte aux années 50, entre 55 et 60 à peu près, si mes souvenirs sont exacts. Et elle a été pionnière en la matière, elle est issue d'une famille protestante. Et elle a beaucoup écrit à ce sujet, d'ailleurs elle s'est rendue compte après coup que dans certains domaines, les idées qu'elle avait été lancées n'avaient pas été suivies seulement de résultats glorieux, mais de résultats dramatiques. Et dans un long article qui est une interview d'Evelyne Sullerot et qui s'intitule « Famille éclatée, à qui la faute ?», Evelyne Sullerot écrit ceci. « Quant au privilège de l'adulte, il s'impose au détriment de l'enfant qui subit cette explosion d'individualisme. Il est terrible que l'enfant passe après le plaisir et la liberté des parents. À partir du moment où un couple met un enfant au monde, il lui doit un minimum d'engagement et de volonté de durer. Un enfant, c'est comme un tricot. Si on rate une maille, cela a des conséquences irrattrapables. Or, actuellement, et l'article date déjà d'un certain temps, actuellement, un enfant sur trois, même près d'un sur deux, entre 0 et 15 ans, transite par un foyer monoparental. Sans vouloir moraliser, on peut tout de même se demander si le mieux pour un enfant, ce n'est pas encore d'être élevé par un père et une mère qui se conduisent en adultes responsables. La présence avant les sous. En soulignant ce soir le drame de l'absence d'un des deux parents, ou encore sa présence absente, qui est synonyme de souffrance pour l'enfant. Alors il y a des souffrances inévitables. Il y a les souffrances inévitables, celles qui sont liées, par exemple, au décès de l'un des deux parents. Et je pense ici, avec une certaine émotion, à ma propre expérience. J'avais donc un peu plus de 6 ans lorsque ma maman est décédée après 8 années de maladie, de tuberculose. Et je me souviens notamment du moment de mon retour à la maison, puisque on m'avait mis à l'écart de toute la cérémonie d'ensevelissement. Et donc, mon père est venu me chercher pour que nous rentrions dans notre maison. J'avais donc 3 sœurs aînées. Et je me souviens, et je me souviendrai toute ma vie, de l'impression de vide terrible ressenti lorsque je suis entré dans notre appartement. Cette visite des pièces, ce sentiment d'une absence extrêmement forte qui allait d'ailleurs me perturber, puisque l'année suivante, mon père, voulant m'entourer avec beaucoup d'amour et prendre ses responsabilités de père, me confia à une famille, un jeune couple, qui avait un petit enfant, un petit garçon qui s'appelait Daniel. Et, tout petit encore, et qui habitait à Menton, sur la côte d'Azur, et donc j'eus droit à 3 mois de vacances à Menton l'année suivante, pendant tout l'été, pendant que mon père continuait son activité professionnelle. Et je me souviens de la manière dont j'ai vécu ces 3 mois. Bien sûr, c'est avec le recul que j'ai mieux compris toutes sortes de mécanismes de réaction qui se sont produits dans mon propre cœur. Et comment, par exemple, très rapidement, dans mon cœur d'enfant, je suis devenu jaloux du petit Daniel. Daniel qui avait un papa, une maman, qui l'aimait, qui l'entourait. Et je suis devenu tellement jaloux de ce petit garçon que dans ma petite tête d'enfant, je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais attirer l'amour de sa maman pour moi en détournant cet amour de Daniel? Et c'est ainsi que, on parlera de la bonté naturelle de l'enfant, c'est ainsi que, quand la maman avait le dos tourné, je jetais l'assiette du petit garçon sur sa chaise haute, au sol, où je la renversais, de manière à ce que la maman s'énerve contre l'enfant et que je sois valorisé aux yeux de la maman. Et effectivement, pendant un court temps, c'est ce qui s'est produit, jusqu'à ce que, bien entendu, finalement, la maman se rende compte que le problème n'était pas du côté de Daniel, mais qu'il était bien du côté de Maurice. Perturbation liée au fait simplement que maman n'était plus là. Souffrance, j'ai dit, inévitable, qui peuvent être notre lot aux uns et aux autres. Et nous avons souvent dit à nos propres enfants que nous étions reconnaissants, que Dieu nous ait gardés en vie. Pour le temps de leur éducation, quand on a été soi-même orphelin, de père ou de mère ou des deux, on apprécie beaucoup plus d'être là pour s'occuper de l'éducation des enfants et pour les aimer. J'aimerais ici, avec le souci de d'émailler nos réflexions de considérations d'ordre pratique, évoquer un de ces enfants au visage figé, sans expression, une sorte de regard vitreux, hagard. Ce regard qui croisait celui d'une institutrice. C'était le regard de Teddy. Quand elle lui parlait, l'institutrice, il répondait toujours par monosyllabes. Il était distant, il était sans motivation, il n'y avait rien en lui qui portait à l'aimer. Et chaque fois que cette institutrice annotait les copies de Teddy, elle prenait un certain plaisir à bien souligner les réponses fausses. Et quand elle marquait une mauvaise note en haut du devoir, invariablement elle le soulignait. Or, elle aurait dû adopter une attitude plus compréhensive parce qu'elle détenait le livret scolaire de Teddy. Elle savait sur lui des choses qu'elle avait de la peine à admettre. Par exemple, dans le livret scolaire de Teddy figurait cette indication dans une des classes qu'il avait précédemment fréquentées, travail et comportement prometteurs, mais conditions familiales déplorables. Classe suivante, Teddy pourrait mieux faire. Mère très gravement malade, reçoit peu d'aide à la maison. Classe suivante, toujours dans le carnet de scolarité, Teddy est un gentil garçon, mais trop sérieux, il apprend lentement. Sa mère est décédée cette année. Classe suivante, Teddy est très lent, mais il a un bon comportement. Son père ne lui manifeste aucun intérêt. Noël arriva. Les garçons et les filles de la classe de cette institutrice, Mademoiselle Thompson, lui apportèrent leurs cadeaux. Ils déposèrent les paquets sur le bureau, se rassemblèrent autour pendant qu'elle les ouvrait. Et parmi tous ces cadeaux, il y en avait un de Teddy. Elle fut surprise qu'il lui ait apporté un cadeau. Le cadeau de Teddy était enveloppé dans du papier brun, d'emballage, retenu par un bout de scotch, et sur le papier figuraient ces simples mots « Pour Mademoiselle Thompson, de la part de Teddy ». Quand elle ouvrit le paquet de Teddy, il s'en échappa un bracelet clinquant, auquel il manquait la moitié des pierres, et un flacon d'eau de toilette bon marché. Les autres enfants commencèrent à glousser, à se moquer des cadeaux de Teddy, mais Mademoiselle Thompson eut cette fois assez de bon sens pour les faire taire, en mettant aussitôt le bracelet et en versant quelques gouttes d'eau de toilette sur son poignet. Elle fit sentir son poignet aux autres enfants et dit « Sentez comme ça sent bon !» Alors les enfants, suivant l'exemple de leur institutrice, acquiescèrent spontanément par des « Ah oh !» À la fin de la journée, une fois l'école terminée, les autres enfants partis, Teddy s'attarda dans la salle de classe. Il s'approcha lentement du bureau et souffla doucement « Mademoiselle Thompson, vous sentez exactement comme ma mère. Et son bracelet est très joli à votre poignet. Je suis content que vous ayez aimé mes cadeaux. » Quand Teddy l'eut quitté, Mademoiselle Thompson tomba à genoux et demanda à Dieu de lui pardonner. Le lendemain, quand les enfants retournèrent en classe, ils furent accueillis par une nouvelle institutrice. Mademoiselle Thompson était devenue une personne différente. Elle n'était plus une simple institutrice, elle était devenue un agent de Dieu. Elle était désormais une personne décidée à aimer ses élèves et à faire pour eux des choses qui resteraient gravées à jamais dans leur vie. Elle aidait tous les enfants, mais surtout ceux qui étaient lents, et tout spécialement Teddy Stallard. À la fin de cette année scolaire, Teddy avait fait des progrès considérables. Il avait rattrapé la plupart des élèves et en avait même dépassé certains. Elle n'entendit plus parler de Teddy pendant longtemps. Puis, un jour, elle reçut un petit mot qui disait « Chère Mademoiselle Thompson, je voulais que vous soyez la première à le savoir. Je vais obtenir mon diplôme. Je suis seconde de ma classe. Affectueusement, Teddy Stallard. » 4 ans plus tard, une autre lettre arriva. « Chère Mademoiselle Thompson, je viens d'apprendre que je vais finir premier de ma promotion. Je voulais que vous soyez la première à le savoir. L'université n'a pas été facile, mais j'ai bien aimé ça. Affectueusement, Teddy Stallard. » Puis, 4 ans encore plus tard. « Chère Mademoiselle Thompson, aujourd'hui je suis Théodore Stallard, docteur en médecine. Qu'en dites-vous? Je voulais que vous soyez la première à le savoir. Je me marie le mois prochain, le 27, pour être plus précis. Je veux que vous veniez et que vous vous asseyiez là où se serait assise ma mère si elle avait été vivante. Vous êtes la seule famille qui me reste maintenant. Papa est décédé l'année dernière. Affectueusement, Teddy Stallard. » Et Mademoiselle Thompson se rendit à ce mariage, s'assit là où se serait assise la mère de Teddy. Elle méritait de s'asseoir là, elle avait fait pour Teddy une chose qu'il n'oublierait jamais. Souffrance inévitable. Mais disons-le, que de souffrance pourrait être évité. Que de souffrance pourrait être évité. J'ai été interpellé le 8 février de cette année dans une émission télévisée où une avocate spécialisée dans le droit de la famille répondait à un animateur en disant notamment ces phrases que j'ai notées concernant le divorce, le concubinage, la séparation. Les enfants servent plus de munitions dans la bagarre. La souffrance est consubstantielle au divorce, au concubinage, à la séparation. Autre exemple encore, concernant les victimes les plus vulnérables de l'instabilité familiale, l'auteur d'un article écrit ceci: « J'ai mesuré l'ampleur de ce coup tragique qu'on asséné à la génération future lors d'une conversation avec une institutrice de CM2. Enseignant dans une école de classe sociale moyenne et supérieure. Elle avait été choquée de constater le contenu des rédactions qui avaient eu pour consigne de compléter la phrase commençant par « J'aimerais », point de suspension. Elle s'attendait à des souhaits pour des vélos, des chiens, des téléviseurs câblés, des voyages à Hawaï. Au lieu de cela, 20 enfants sur 30 avaient fait référence à leur famille en voie de désintégration. Voici quelques-unes de leurs réponses. J'aimerais que mes parents arrêtent de se disputer et que mon père revienne vite à la maison. Ou encore, j'aimerais que ma mère n'ait pas de petite amie. Autre réponse, j'aimerais avoir de très bonnes notes pour que mon père m'aime. J'aimerais n'avoir qu'une maman et qu'un papa pour que les autres enfants ne se moquent plus de moi. J'ai 3 mamans et 3 papas et ils bousillent ma vie. Et enfin, j'aimerais avoir un fusil pour tirer sur tous ceux qui se moquent de moi. Et l'auteur de conclure, je sais bien que c'est une banalité de dire que la famille d'aujourd'hui est malade, mais cela me désolera toujours de constater le combat que mènent ces enfants contre le chaos, alors que grandir n'est déjà pas une mince affaire. Des millions comme eux sont pris dans ce piège. Je continue en vous donnant quelques extraits d'un long article qui s'intitule « Parents divorcés, enfants déchirés ». Ce n'est pas un article tout à fait récent, il date de 1992, mais son contenu est tout à fait valable aujourd'hui. Il est introduit par une citation de Montesquieu, 1748. Le divorce est établi pour le mari et pour la femme et n'est pas toujours favorable aux enfants. Et l'auteur, Caroline Tosson, de commencer son article en soulignant que les effets libérateurs du divorce sont devenus un lieu commun. Sondage après sondage, les Français se révèlent de moins en moins enclins à privilégier le mariage de longue durée. Cette tendance s'observe d'ailleurs dans la quasi-totalité des nations occidentales. Les livres pour jeunes divorcés fleurissent dans les rayons des librairies. Divorcer, c'est une citation, et sûrement un des chocs émotionnels les plus forts de votre existence. Mais en même temps, il vous offre une chance, celle de rencontrer un bonheur nouveau. Ce même guide énumère les avantages de la séparation, citant par exemple le cas d'une femme récemment séparée. Voilà ce qu'elle dit. Pendant son premier mariage, elle avait réprimé sa personnalité, mais après son divorce, elle s'était autorisée à s'épanouir. Et l'auteur de dire « Bienheureux les divorcés ». En janvier 1992, 78% des personnes interrogées lors d'un sondage estimaient qu'il était possible de réussir son divorce. Et après cette introduction, l'auteur va plus loin. Dirigeons-nous à présent vers le rayon réservé aux publications enfantines, où les parents divorcés peuvent trouver pour leur progéniture des ouvrages écrits sur un tout autre ton. Un petit livre illustré, « Les deux maisons de Désiré Raton », édition Grasset, apprend par exemple aux tout-petits à surmonter leur chagrin d'être ballottés d'une maison à l'autre quand leurs parents ne s'entendent plus. On trouve aussi un ouvrage intitulé « Parlons-en, le divorce », destiné plutôt aux 6-12 ans, dans lequel on peut lire « Papa et maman ont décidé de commencer une nouvelle vie, mais moi, je n'ai pas le choix. Et personne ne me demande mon avis. » Et l'auteur, un peu plus loin, souligne parallèlement les problèmes liés à l'éclatement de la famille prennent une ampleur alarmante. Le bien-être général des enfants s'est détérioré. En France, depuis les années 60, le taux de suicide chez les jeunes a triplé. La violence et la délinquance juvénile sont chaque jour plus préoccupantes. Devant de tels ravages, on s'attendrait à ce que le taux élevé de divorce soit perçu par la majorité comme un fléau national. Or, il n'en est rien. Ceux qui osent y voir une menace grave pour l'avenir de notre société se font traiter de passéistes, incapables de s'adapter aux nouvelles réalités. Au contraire, comme le fait remarquer un psychanalyste, le divorce est devenu une péripétie parmi d'autres, la séparation est tolérée, admise, voire banalisée, et beaucoup pensent que les enfants peuvent même sortir aguerris de l'épreuve. Une affirmation bien difficile à vérifier jusqu'à ces toutes dernières années, faute de preuves suffisantes. Alors elle accumule ensuite les preuves de la gravité du divorce dans les conséquences pour les enfants, et elle termine avec ces mots. Après une vingtaine d'années d'études et d'enquêtes, le doute cependant n'est plus permis aujourd'hui. Dans la crise du divorce, les enfants sont sûrement malmenés, secoués, quand ils ne sont pas purement et simplement oubliés, écrit le psychanalyste cité tout à l'heure. Ils se sentent toujours responsables de cette situation, comme s'ils l'avaient eux-mêmes provoquée. Ce sentiment de culpabilité peut être plus ou moins intense, mais il existe toujours. Pourtant, il est presque impossible de parler des effets néfastes du divorce sans soulever un tollé de protestation. Beaucoup y voient une attaque contre les femmes qui se battent pour élever seules leurs enfants. D'autres font remarquer que la décision de mettre un terme au mariage ne se prend pas de gaieté de cœur. Souvent, elle n'intervient qu'en dernier ressort, lorsque les conjoints ont tout tenté pour sauver leur couple du naufrage. Pourquoi les accabler davantage en énumérant les torts que la séparation cause aux enfants ? Il reste que, si nous persistons dans notre refus de voir un lien de cause à effet entre le divorce et les difficultés croissantes des jeunes, leurs perspectives d'avenir n'iront pas en s'améliorant, bien au contraire. Depuis 25 ans, les valeurs familiales traditionnelles ont subi une érosion sans précédent. Aujourd'hui, nous savons que ce sont les jeunes qui ont perdu au change. J'ajoute dans ce tableau le nouveau problème, celui des enfants de plus en plus nombreux élevés par un couple, entre guillemets, d'homosexuels. Et j'ai lu avec énormément d'intérêt un article traitant du thème de l'amour des enfants dans les couples homosexuels. Cet article a paru dans la revue Psychologie de mai 1999. Et c'est un psychanalyste français, Claude Almos, qui l'écrit, et je ne vais vous en citer quelques extraits, dans lequel cet homme souligne que l'enfant est un sujet qui se construit sur la différence des sexes. L'enfant a besoin d'un père et d'une mère qui soient un homme et une femme. Il s'agit que la mère accepte d'être femme et mère et pas homme et père. Et qu'à l'inverse, l'homme reconnaisse qu'il ne peut être femme et mère. Il s'agit que chacun soit posé dans sa différence et que du désir circule à cause de cette différence. En quoi est-ce important pour l'enfant? Alors, je ne vais pas vous citer toute son argumentation, mais mettre en relief certains des arguments. En voici un. La différence des sexes intervient au moment du maternage du nourrisson. Cette période des premiers mois où se construisent les fondations de l'humain et le sentiment de sécurité qu'il aura ou n'aura pas sa vie entière. Quiconque travaille avec des nourrissons sait que l'enfant a besoin, à ce moment-là, qu'une femme s'occupe de lui, parce que cette période de sa vie prolonge dans une quasi-fusion entre la mère, suffisamment bonne, comme disait un auteur, et son bébé, quelque chose de la vie intra-utérine, et que seule une femme, soit parce qu'elle a porté cet enfant, soit parce que mère adoptive, elle s'identifie à celle qui l'a porté, peut sentir ce dont il a besoin. Deuxième élément de réponse, la différence des sexes permet au père de prendre sa place de porteur de la loi. Il faut que la mère accepte qu'il intervienne en tiers entre l'enfant et elle et qu'elle le dise à l'enfant. Et cet homme va ensuite développer cette pensée. Plus loin, il ajoute, de plus, l'enfant a besoin que le parent du même sexe que lui l'accompagne, le soutienne dans le chemin vers son identité. Pour ne pas avoir peur des femmes, un garçon a besoin d'un compagnonnage viril avec un père qui le rassure. Voilà donc simplement quelques extraits éloquents qui ne viennent pas de notre milieu évangélique, mais dans lesquels l'auteur finalement rejoint ce que disent les Écritures. Pour éduquer, il faut être présent. La présence doit venir avant les sous et d'autres dimensions, nous allons y venir. Parce que je voudrais ici évoquer le problème des deux parents qui travaillent bien entendu à l'extérieur, puisque il va de soi qu'une épouse et mère au foyer travaille au moins autant, sinon plus, qu'une épouse et mère engagée dans la vie professionnelle à l'extérieur du foyer. Je pense vous avoir déjà dit que ma chère épouse, dans les premiers temps de notre mariage et lorsque nous avons eu nos premiers enfants et qu'elle devait remplir les feuille de remboursement de soins de la sécurité sociale à côté de l'indication profession, elle mettait sans profession, et quand je regardais après elle, je disais: chérie, tu t'es trompée, sans profession s'écrit S-A-N-S. Et puis je comprenais parce qu'elle avait mis C-E-N-T et un S au bout de profession. Et bien entendu, je ne corrigeais pas, parce que j'étais trop heureux de ce petit coucou à celui ou celle qui, ayant suffisamment de connaissances grammaticales, regarderait à deux fois les réponses indiquées dans ce questionnaire. Les deux parents travaillent à l'extérieur. Alors, bien sûr, priorité et équilibre. Cela sous-entend que il n'est pas question ce soir de partir en guerre de manière systématique et sans nuance contre toutes les épouses et mères qui travaillent à l'extérieur. Ce serait profondément injuste. Il est des situations d'exception. Bien entendu, ça peut être la situation d'une veuve, seule, pour élever des enfants, parce que privée très tôt dans sa vie de son conjoint. Ça peut être effectivement des situations d'abandon où une épouse et mère se retrouvent du jour au lendemain plaquées, avec désormais ses enfants sur les bras. Et on peut donc imaginer toutes sortes de situations de type monoparental où un seul des deux, et là nous nous tournons surtout vers les mères, est chargé de l'éducation des enfants. Mais une fois qu'on a mis de côté ces situations difficilement contournables, que penser de ces parents qui travaillent pour gagner davantage ? Parce qu'il faut payer les nombreuses traites sur la maison, la voiture, le tout confort, la multitude d'abonnements et je ne sais quoi encore, le refus de commencer petitement. Ici aussi, nous allons simplement ici et là prendre quelques exemples. Écoutez ceci. Avec l'accroissement spectaculaire des familles monoparentales et de celles dont les deux parents travaillent, la garde des petits-enfants est devenue un problème crucial pour notre pays. Suivent des statistiques dont je vous fais grâce. Et l'auteur reprend, les conséquences psychologiques et sociales, personne ne peut les mesurer pour l'instant. Mais quelles que soient les appréhensions de nombreux parents et spécialistes de la petite enfance, cette évolution est un phénomène de société contre lequel nous ne pouvons rien. Aline, une jeune mère de 25 ans, résume sa situation. À la naissance d'Aurélien, Marc et moi débutions à peine dans la vie active. M'arrêter de travailler aurait été une catastrophe financière. Et en cette période de chômage, je ne pouvais prendre un tel risque. Faire garder l'enfant était la seule solution envisageable. Autre extrait d'un livre remarquable, écrit par Alain Perfit, donc qui est décédé il y a déjà quelques années, et consacré au problème de la justice en France, Les chevaux du lac Ladoga, livre absolument remarquable. Et dans ce livre, Alain Perfit fait une analyse de la famille, et il dit notamment ceci, la famille a perdu de son pouvoir. Les grands-parents, qui jadis faisaient partie du noyau familial, sont relégués dans des maisons de retraite. Les parents sont dispersés par leurs activités professionnelles, ils s'absentent. Leur absence nourrit le sentiment de force et d'isolement des jeunes. Les parents terribles ont bien disparu. Le père a perdu son autorité, la mère son image enveloppante et protectrice. Ils sont animés du souci de faire jeune et ne souhaitent pas être taxés d'esprit rétrograde. Le doute est contagieux. Comment les enfants pourraient-ils avoir foi dans des valeurs déjà suspectes à leurs parents? Quant à l'école, elle n'a pas toujours su adapter son action à une jeunesse plus nombreuse, plus impatiente, moins docile, et peut-être bien que toujours aussi avide de croire. Mais croire en quoi? Encore une enquête très très intéressante, évoquant le problème lié au travail. Mes parents travaillent et moi. Interview de plus de 1000 enfants en France, avec comme sous-titre « Les enfants ont beaucoup à dire sur nos silences et nos absences ». Alors je vais vous citer quelques extraits. Voilà ce qu'un enfant dit dans ses interviews. « Mon père n'arrête pas de travailler », se plaint Cathy, 14 ans. « Il part très tôt le matin, ne rentre jamais avant 8 heures du soir. » À ce moment-là, nous, on a déjà dîné. Alors il mange tout seul, presque toujours devant la télé. Il va même au bureau les week-ends. L'auteur reprend, « Bien des enfants sont persuadés que les adultes sont plus soucieux de réussir que de s'occuper convenablement d'eux. » Autre citation d'un enfant, « Tout le monde trouve maman formidable », dit un garçon de 13 ans, « parce qu'elle est brillante, qu'elle travaille beaucoup et qu'elle est connue. Elle a même le temps de voyager. » Le seul pour qui elle n'a pas une minute, c'est moi. Sur tous les jeunes interrogés, 37% nous ont déclaré que leurs parents étaient toujours grognons en rentrant le soir. Le mardi, dit Jimmy, 13 ans, mes parents jouent au tennis. Le jeudi, ils dînent avec des amis. Et le week-end, on les voit à peine. Ils préfèrent sortir que de rester à la maison avec nous. L'auteur ajoute, au cours des entretiens, beaucoup de nos jeunes interlocuteurs nous ont demandé pourquoi les parents ont si souvent envie de sortir. Le temps que vous consacrez à vos enfants le matin donne la tonalité du jour. Le matin, dit Kim, 11 ans, c'est le cirque. Tout le monde court dans tous les sens. Les parents n'arrêtent pas de râler qu'ils vont être en retard et de crier après nous. « Habille-toi, fais ton lit, dépêche-toi, finis ton petit déjeuner. » C'est moche de commencer la journée comme ça. Et l'auteur de l'enquête ajoute « Cette attitude se retrouve de façon quasi générale dans les réponses à l'enquête. » Dans nos interviews, une des doléances les plus fréquentes, plus de 75%, est la crainte de rester seul à la maison. Et l'auteur d'ajouter, le meilleur moyen d'assurer la sécurité chez vous et de prévenir les incidents éventuels, c'est d'installer un détecteur de fumée, un système d'alarme antivol, laisser la radio branchée dans la journée pour donner l'impression que les lieux ne sont pas vides. D'autant que, comme l'a remarqué un gosse, ça fait peur de marcher dans une maison où il n'y a pas un bruit. Quant à la clé, veillez à ne pas la cacher dans un endroit trop aisément détectable, comme sous le paillasson, confiez-la plutôt à un voisin. Les enfants d'aujourd'hui, conclusion, trouvent normal que leur père et leur mère travaillent, mais ils veulent toujours que leurs besoins soient pris en compte. Les deux parents travaillent pour gagner davantage. Et je n'hésite pas à dire, et je le dis aussi pour ceux qui écouteront les cassettes, que je suis inquiet de voir le nombre de familles chrétiennes dans lesquelles actuellement les épouses et mères de famille ont pris la décision de travailler à l'extérieur, au détriment de l'éducation de leurs enfants. Je sais que je ne suis pas populaire en le disant. Mais j'ai déjà dit que le Seigneur m'a pas appelé à être populaire, mais à faire sa volonté. Mais nous trouvons ça normal maintenant. Rappelez-vous la grenouille. Tout le monde le fait autour de nous, et nous sommes en train, les uns après les autres, dans les foyers chrétiens, de succomber à cette tentation. Sans nous rendre compte que nous allons y perdre beaucoup plus rapidement que nous ne le pensons, y compris dans la qualité de notre témoignage. Parce que, finalement, les familles chrétiennes ressemblent de plus en plus aux familles de ce monde. Et nous pouvons faire de l'évangélisation. Allez, distribuez des traités, allez-y. Mais si nos vies de famille ressemblent à celles du monde, vous pouvez distribuer autant de traités que vous le voulez. Si votre famille est un contre-témoignage, c'est profondément regrettable. Que nous évangélisions, oui. Mais l'évangélisation commence par la qualité de nos vies de famille. Notamment à ce niveau-là. Quand je pense au départ des enfants très tôt le matin pour la crèche, les tout petits en plein hiver, au retour de l'enfant dans une maison vide, la clé autour du cou, aux enfants que l'on retrouve ivres chez eux sans surveillance parce qu'ils ont vidé les bouteilles à la maison, aux parents, nous l'avons vu, trop fatigués au retour le soir, aux enfants qui tuent le temps devant la télé, et bien entendu parce que les parents ne sont pas là, il n'y a aucun contrôle sur ce que l'on regarde, même avec tous les moyens modernes que l'on a de crypter et tout le reste. J'ai là une citation que je vais volontairement tronquer. Si je pouvais me placer sur le plus haut sommet, je ne vais pas citer la ville. J'élèverai ma voix et je crierai « Pourquoi, concitoyens, remuez-vous ciel et terre pour accumuler les richesses, tout en prenant si peu soin de vos enfants, à qui un jour vous devez tout laisser ?» Savez-vous qui est l'auteur de cette citation ? Je vais la reprendre et je vais mettre le nom de l'endroit maintenant. Si je pouvais me placer sur le plus haut sommet d'Athènes, j'élèverais ma voix et je crierais « Pourquoi, concitoyens, remuez-vous ciel et terre pour accumuler les richesses tout en prenant si peu soin de vos enfants, à qui un jour vous devez tout laisser ?» Et ce citoyen d'Athènes s'appelle Socrate. Il a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. T'es pas chrétien ? Même le monde a quelque chose, souvent parfois, à dire à l'Église de Jésus-Christ dans ce domaine. Vous savez, en vous disant cela, je pense aux situations dramatiques que mon épouse et moi côtoyons dans notre ministère. Je pense à un couple qui, actuellement, est complètement déchiré avec une magnifique petite fille qui a maintenant 20 mois ou un peu plus de 20 mois. Nous les avons accueillis chez nous pour les aider, pour essayer de leur faire éviter le drame de la rupture. Tous les deux ont fait profession de foi, disent appartenir à Jésus-Christ. Maintenant, les deux travaillent. Chacun de son côté. L'enfant est ballotté. Et je pourrais multiplier les exemples profondément douloureux dans l'Église de Jésus-Christ. Que de drames entre avant-hier et aujourd'hui, j'ai reçu, je crois, 3 coup de téléphone d'Afrique pour un drame qui se perpétue et qui s'aggrave de plus en plus au sein d'un couple missionnaire. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Parce que nous ne voulons pas simplement nous incliner dans un Dieu sage qui a prévu vraiment le meilleur pour chacun d'entre nous, et parce que peu à peu, comme la grenouille, nous laissons attraper, envahir, séduire, contaminer par la mentalité ambiante, cette mentalité qui règne autour de nous. Et puis, disons-le, on fait de mauvais calculs sur toute la ligne quand les parents travaillent tous les deux. Vous savez, on a réalisé des enquêtes pour essayer de voir si vraiment il était si avantageux que cela, simplement financièrement, de travailler tous les deux. Quand on sait tout ce que cela signifie comme dépenses supplémentaires en matière de crèche ou de nourrice ou de boîte de conserve à ouvrir, de choses à acheter, tout simplement parce qu'on ne peut pas le faire chez soi. Et on s'est rendu compte que finalement, on n'était peut-être pas aussi gagnant qu'on le pensait, d'autant plus au niveau de la déclaration des revenus, si je veux être encore plus précis, et les impositions qui en résultent. Et puis les enfants, et c'est ça le plus important, en sont les premières victimes. Sans compter la compensation ou les compensations cadeaux pour étouffer la mauvaise conscience. J'ai noté ici que déjà à Noël 1980, et ça a bien augmenté depuis, il y avait eu 4 milliards de francs dépensés pour les 12 millions d'enfants français, soit 333 francs français par enfant. J'ai les statistiques concernant les Américains, n'est-ce pas? En ce moment, les Américains dépensent par an 24 milliards de dollars pour leurs enfants. Des milliards sont dépensés pour une liste interminable de machins, jouets chers, disques compacts, télévisions. Et l'auteur ajoute, est-ce que les parents dépensent de l'argent pour leurs enfants afin de ne pas avoir à passer du temps avec eux? C'est l'impression que nous a donnée une étude rapportée dans le Wall Street Journal. Elle a révélé que la majorité des enfants de 10 et 11 ans avaient une télévision dans leur chambre et pouvaient regarder tout ce qu'ils voulaient. J'ai ici sous les yeux cette déclaration du mari d'Yvette Roudy, qui a été à un moment donné ministre des droits de la femme. Et le quotidien de Paris a demandé à son mari, donc M. Roudy, s'il y avait des femmes au foyer heureuses, équilibrées et satisfaites de leur existence. Réponse, je ne peux vous suivre sur ce terrain, vous manquez d'informations. On ne peut élever correctement les enfants que si l'on travaille. Les femmes au foyer ne m'intéressent pas, elles sont une perte pour la société, ce sont des légumes. Être au foyer, c'est refuser de vivre, c'est un suicide. Écoutez cette question. Ma femme et moi sommes extrêmement occupés actuellement. Mon travail m'oblige à passer plusieurs jours par semaine sur les routes. Mon épouse a maintenant beaucoup de succès en tant qu'agent immobilier. Très honnêtement, nous ne sommes pas en mesure de passer beaucoup de temps avec nos trois enfants, mais nous leur accordons toute notre attention quand nous sommes ensemble. Mon épouse et moi aimerions bien disposer de plus de temps pour le passer en famille. Mais nous nous consolons en nous disant que ce n'est pas tant la quantité que la qualité du temps passé avec les enfants qui compte avant tout et qui fait la différence. Êtes-vous d'accord avec nous? Et voilà la réponse. Oh, il y a toujours une part de vérité dans les idées populaires. Celle-ci ne fait pas exception. Tout le monde sera d'accord pour reconnaître qu'il ne servira à rien d'être 7 jours sur 7 avec ses enfants si c'était pour se montrer irrité, tyrannique et capricieux avec eux et ne rien leur apprendre. Mais à partir de là, le débat entre la quantité et la qualité est voué à l'échec. Si l'on veut le dire d'une manière simple, cette dichotomie, donc cette manière de couper en deux, de séparer quantité et qualité, ne sera jamais tolérée dans quelque autre domaine de notre vie. Alors pourquoi l'appliquons-nous dans nos relations avec nos enfants? Permettez-moi d'utiliser une illustration. Supposons que vous ayez très faim, parce que par exemple, vous n'avez rien mangé de la journée. Vous choisissez alors le meilleur restaurant de la ville, vous demandez au serveur le meilleur steak figurant au menu. Il vous répond alors que la spécialité de la maison, c'est le filet mignon. Vous le demandez alors bien grillé. Le serveur revient 20 minutes plus tard avec le plat que vous avez commandé et le place devant vous. Au centre d'une grande assiette, vous découvrez un morceau de viande bien solitaire de 10 cm carrés, accompagné d'une simple pomme de terre. Vous vous plaignez alors vigoureusement auprès du serveur en lui disant « Est-ce là ce que vous appelez un steak maison ?» Il vous répond alors « Mais monsieur, comment pouvez-vous nous critiquer avant d'avoir goûté cette viande? Je vous ai apporté 10 cm carrés du meilleur steak que vous puissiez vous offrir. Il est cuit à la perfection, assaisonné comme il se doit et servi bien chaud. En fait, je doute que vous puissiez trouver dans toute la ville un meilleur steak. Je reconnais volontiers que le morceau n'est pas gros, mais après tout, monsieur, tout le monde sait que ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui compte le plus en matière de steak. » C'est insensé, répondrez-vous. Et je vous approuve. Voyez-vous, la subtilité de cette simple phrase est qu'elle oppose deux vertus nécessaires et nous invite à choisir entre elles. Si la quantité et la qualité sont des éléments valables des relations familiales, pourquoi ne pas les accorder toutes les deux à nos enfants? Il ne suffit pas de lancer à nos enfants affamés un petit morceau de steak occasionnel, même s'il s'agit d'un filet mignon de premier choix. Sans vouloir vous faire le moindre reproche pour avoir posé une telle question, je dirais que ce qui me gêne le plus dans ce débat quantité contre qualité, c'est qu'il revêt peut-être la forme d'une excellente excuse pour ne donner ni l'une ni l'autre à nos enfants. Cette phrase a été galvaudée par des parents trop engagés et harassés qui se sentent toujours un peu coupables de ne pas consacrer assez de temps à leurs enfants. Leurs fils et leurs filles sont déposés dans des crèches pour la journée, confiés à des babysitters le soir, ce qui ne laisse plus qu'une place infime aux activités parentales traditionnelles. Et pour faire face à l'inconfort qu'engendre la négligence dont les enfants sont victimes, papa et maman s'accrochent à un slogan qui donne à tout cela des allures saines et propres. « Oh, vous savez, ce n'est pas la quantité de temps qui compte, mais la qualité des moments passés ensemble. » Je maintiens que cette généralisation bien pratique ne tiendra pas longtemps debout. Donc, faire tout pour que maman soit présente à la maison. Faire tout pour que maman soit présente à la maison. Parce que son rôle est déterminant, d'autant plus durant les toutes premières années de la vie de l'enfant. Écoutez ces quelques témoignages intéressants. Quelques jours avant Noël, je me promenais avec mon fils Pascal, 4 ans, dans les rues animées d'un quartier commerçant. En passant devant la vitrine d'un magasin, je montrais à Pascal la scène de la nativité. Le petit Jésus dans la crèche, entouré de l'âne, du bœuf, etc. « Pourquoi est-ce que le petit Jésus est dans la crèche ?» me demanda-t-il. Et sans même me laisser le temps de répondre, il continua « C'est parce que sa maman travaille ?» J'emmenais un jour ma petite fille de 4 ans à la mare aux canards du jardin public près de chez nous. En nous promenant, je remarquais un groupe de gens agglutinés près du bord. Ils regardaient un canard particulièrement beau, suivi par sa couvée de 8 petits en rang d'oignon. Tout le monde avait les yeux fixés sur le spectacle. Ravi de partager ce moment avec ma petite fille, je lui dis « Que c'est beau! Regarde cette maman canne avec tous ses petits !» Elle rompit le charme brusquement en nous ramenant à la réalité. « Tu n'en sais rien, mamie, c'est peut-être la babysitter. » Alors que je préparais des tartes avec Ketsia, ma fille de 3 ans, elle me dit soudain très sérieusement « Toi, tu ne vas pas travailler, maman, tu restes avec moi ?» Émue de voir reconnaître mes mérites à une époque où ce sont plutôt les femmes actives capables de faire tourner en même temps four et moulin qui sont portés au nu, je lui répondis « Bien sûr, ma chérie, je m'occupe de toi. » Heureuse d'avoir compris la situation, je l'entendis alors me dire « Hein, maman, c'est parce que travailler... C'est trop difficile pour toi. » Un dernier. Mon mari et moi, nous nous efforçons d'avoir des horaires de travail différents afin de pouvoir nous occuper nous-mêmes le plus possible de nos enfants d'âge préscolaire. Un soir, je racontais à mon mari, « Aujourd'hui, les garçons m'ont posé des questions sur la religion, le sexe, la vie et la mort. Quand tu es seul avec eux, qu'est-ce qu'ils te demandent ?» Réponse : Où est maman ? Où est maman ? J'ai été très frappé il y a déjà un certain nombre d'années par un reportage sur les coulisses du palais de justice de Paris. Et subitement, la caméra s'est braquée sur un des murs d'une cellule de la prison attenante au palais, et on pouvait lire « Maman, pourquoi m'as-tu abandonné ? Maman, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai ici un questionnaire. Il s'agit de questions posées à deux criminologues renommés qui ont réalisé une étude approfondie de la délinquance juvénile et de ses causes. Question: qu'est-ce qui vous paraît être la cause de la croissance si rapide de la délinquance de nos jours ? Réponse: il y a nombreuses causes. Pour la plus grande part, cependant, ce que nous voyons maintenant est un processus qui se déroule depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, il y a de plus en plus de mères qui travaillent. Nombreuses sont celles qui ont laissé leurs enfants plus ou moins sans surveillance à la maison ou dans la rue. Ceci a privé les enfants du guide constant et du sentiment de sécurité dont ils ont besoin de la part de la mère dans leur petite enfance. Écoutez le témoignage d'une journaliste. « Je suis devenue mère alors que j'avais déjà entamé une carrière de journaliste. J'entendais bien reprendre mes activités dès que j'aurais trouvé quelqu'un pour me remplacer à la maison. Mais je me suis vite aperçue que personne ne pouvait vraiment me remplacer. Je me rends compte à présent que rester à la maison avec mes enfants était plus difficile et plus gratifiant qu'un quelconque travail de bureau. Un travail n'est jamais qu'un travail. Alors que pendant toute une période, mes fils étaient tout pour moi et moi tout pour eux. La gloire ? Il suffisait que je leur fasse des crêpes pour la connaître. La fortune ? Je me sentais riche lorsque je les emmenais s'acheter un cornet de glace dans la rue. La considération ? Il fut un temps où l'expression « ma mère a dit » faisait de moi une autorité reconnue dans tous les domaines. C'est aujourd'hui seulement que j'évalue l'ampleur de la tâche. Ce que j'ai fait ou n'est pas fait les a marqués à jamais. Il est impossible de recommencer quoi que ce soit. Tout ce que je peux faire, c'est espérer que les erreurs que j'ai commises les jours où j'étais trop occupé ou de mauvaise humeur ont été compensées par les fois où je renonçais à tout le reste pour leur accorder l'attention dont ils avaient besoin. Que de témoignages ! Que de témoignages ! Et je pense que toute jeune fille convertie à Jésus-Christ devrait, devant le Seigneur, s'engager dans la mesure où un jour Dieu lui donne un mari et leur donne des enfants, s'engager dans le mariage à donner la priorité absolue à la famille et à l'éducation des enfants. Et ça, c'est une décision qui doit être prise avant même que l'on soit marié. Vous direz, j'ai peut-être insisté ce soir. Mais si j'insiste, c'est à cause du véritable raz-de-marée qui est en train de faire des dégâts terribles dans nos églises évangéliques. Et où on est en train, et de plus en plus, de ne plus accepter le message que je suis en train d'essayer simplement de faire passer. Nous avons, c'est incroyable, un nombre d'arguments énormes pour essayer de passer outre un enseignement absolument fondamental des Écritures. J'ai là un sondage intéressant de ces qualités. Quelles sont celles qui vous paraissent être les plus importantes et que doit avoir l'épouse idéale? Qualité la plus importante, être une mère attentive. 38%. Dans le même sondage, Question. Aimeriez-vous plutôt, 1, que votre femme travaille, 2, que votre femme ne travaille pas, donc à l'extérieur, 3, ne se prononce pas. Que votre femme travaille 45%, que votre femme ne travaille pas 37%, ne se prononce pas 18%. Alors c'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà des hommes qui demandent à la maman de leurs enfants d'être une mère attentive, mais qui au même moment, en même temps, demandent à leur épouse de travailler à l'extérieur. Alors, dans le sondage, le sondeur fait remarquer oui à la femme qui travaille, à condition qu'elle continue à bien s'occuper de ses enfants, de son mari et de sa maison. Notre monde est devenu fou. Et j'ai bien peur que l'Église, dans nos pays d'Europe occidentale, l'Église aussi est devenue folle dans ce domaine. Nous sommes en train de courir au suicide dans le domaine de notre témoignage familial. Permettez-moi, ce soir, une fois de plus, d'enfoncer encore le clou. C'est intéressant de voir que dans les Écritures et dans l'Ancien Testament, le nom des mamans, en particulier des mamans des bons et des mauvais rois, est généralement indiqué. Pour bien souligner l'impact, l'influence qu'exerce une mère. Et il suffit d'analyser attentivement quantité de textes et de biographies dans les Écritures pour voir l'influence déterminante d'une mère sur l'avenir de ses enfants. J'aimerais simplement, en terminant, parce que le temps passe, évoquer le rôle de la maman tel qu'il apparaît dans 1 Timothée 5, versets 9, 10 et 14, n'est-ce pas? Nous l'avons lu tout à l'heure, 1 Timothée 5, versets 9, 10 et 14. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, donc bénéficier d'une sorte d'aide financière, pratique de l'église locale. À cette époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, hein. C'était l'église locale qui était solidaire pour le soutien des veuves et en particulier aussi de celles qui avaient exercé des responsabilités. Qu'une veuve pourrait être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle se soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants. C'est intéressant, ayant élevé des enfants. Et nous aurons l'occasion de nous pencher sur ce petit mot « élever des enfants » plus tard. Exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Si on va au verset 14, « Je veux donc que les jeunes veuves, se marient, qu'elles aient des enfants » et qu'elles dirigent leur maison, ou qu'elles soient maîtresses de maison, et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Il y a vraiment beaucoup de travail, n'est-ce pas? Ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Savez-vous que de plus en plus dans mon ministère itinérant, un des problèmes que je rencontre, c'est le problème de l'hospitalité. Savez-vous qu'il m'est arrivé d'être invité dans une église, tenez-vous bien, qui a au moins 500 membres, dans laquelle nous avions des réunions auxquelles participaient 600, 700, voire 800 personnes, et que pendant toute la durée d'une semaine de réunion, j'ai été logé à l'hôtel. Et que pendant toute cette semaine de réunion, nous avons été invités en tout et pour tout pour 3 repas. 2 de ces repas, nous les avons pris chez des personnes en dehors de cette église. Et le seul repas que nous ayons pris dans le cadre de cette église de peut-être 500 membres, c'était chez le pasteur et sa femme. Et en fait, de plus en plus, il y a un problème d'hospitalité. Pourquoi ?
Mais qui va s'occuper de l'accueil quand les deux travaillent? Qui va s'occuper de secourir les malheureux? Je ne voudrais pas mettre mon épouse sur un piédestal, mais je bénis Dieu simplement de ce qu'au fil des années, quand le téléphone sonne et que dans telle maison de retraite, une vieille grand-mère ou un vieux grand-père a besoin d'une visite, eh bien mon épouse peut sauter dans la voiture, aller faire cette visite parce qu'elle est disponible. Et c'est ainsi qu'au fil des 22 dernières années à Chevilly et dans les environs de Chevilly, plusieurs personnes âgées ont trouvé le Seigneur Jésus-Christ, se sont converties à Christ avant de partir auprès du Seigneur. Je ne sais pas, le Seigneur avait certainement un autre moyen de toucher ces personnes si mon épouse avait travaillé à l'extérieur. Mais je bénis Dieu de ce qu'il a trouvé au 13 rue des Bergeronnettes, une épouse qui, tout en ayant beaucoup d'activités, était disponible pour exercer un ministère. Où est ce ministère? Comment est-ce que l'Église d'aujourd'hui va toucher les gens du monde qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de visite, qui ont besoin d'entendre l'Évangile d'une manière naturelle, mêlée à la fête d'un anniversaire, à un petit bouquet de fleurs qu'on donne? Comment est-ce qu'ils vont faire? Alors que nous sommes de plus en plus pris en tant que couple, en tant que famille, et que nous n'avons donc plus de temps à donner pour laver les pieds des saints, secourir les malheureux et pratiquer toute espèce de bonnes œuvres, n'est-ce pas? Comment se fait-il que notre monde et nos églises sont en train de perdre leur humanité, chers amis? Mais c'est parce que les épouses et les mères exercent de plus en plus, non seulement des travaux à l'extérieur, des métiers à l'extérieur, mais y compris des métiers qui sont en contradiction avec leur personnalité, avec leur vocation, avec leur sensibilité affective. Nous l'avons vu dans notre séminaire sur l'harmonie conjugale. La femme, elle est faite pour être le cœur du foyer, le feu qui brûle dans l'âtre. Elle a une dimension d'affectivité, une dimension émotionnelle, une dimension d'intuition. Elle a une qualité de relation avec les personnes. Elle n'aime pas s'inscrire dans l'abstraction. Elle a un don de tendresse, de chaleur, de sympathie. Tout cela est d'une extrême importance pour l'enfant. Tout cela est d'une extrême importance pour le foyer. Comment se fait-il? Vous avez déjà regardé un petit peu le visage des femmes aujourd'hui autour de vous? Vous avez vu combien les visages deviennent durs à cause du stress permanent lié précisément à un monde dans lequel on vit dans des rapports de force permanents? Comment voulez-vous qu'après ça, quand l'épouse et la mère rentrent à la maison, elles soient capables de jouer, de remplir cette fonction de lien affectif, de cœur du foyer, pour arrondir aussi certains angles, pour remplir le réservoir affectif de l'enfant? Comment est-ce qu'elle va faire? Est-ce que nous nous posons cette question? Quand nous nous disons, eh bien, le mois prochain, je vais prendre un emploi, après tout, toutes les femmes travaillent, eh bien, il n'y a pas de raison que moi je n'en fasse pas autant, et puis nous aurons un peu plus pour vivre, et puis nous pourrons nous payer une plus grande maison, une meilleure voiture, etc., etc., n'est-ce pas? Est-ce que c'est juste? Est-ce que Dieu a été consulté dans ce domaine? Qu'a-t-il à dire? Qu'ont à dire les Écritures dans ce domaine? Je termine en reprenant Evelyne Sullerot dans cette interview sur « Famille éclatée, à qui la faute ?» Elle écrit ceci quant au privilège de l'adulte. Il s'impose au détriment de l'enfant qui subit cette explosion d'individualisme. Il est terrible que l'enfant passe après le plaisir et la liberté des parents. À partir du moment où un couple met un enfant au monde, il lui doit un minimum d'engagement et de volonté de durer. Ah, je crois l'avoir déjà dit cela. Oui, ah ben ça ne fait rien, on va le remettre. Un enfant, c'est comme un tricot, si on rate une maille, cela a des conséquences irréparables. Or, actuellement, un enfant sur trois, et même près d'un sur deux, entre 0 et 15 ans, transite par un foyer monoparental. Sans vouloir moraliser, on peut tout de même se demander si le mieux pour un enfant, ce n'est pas encore d'être élevé par un père et une mère qui se conduisent en parents et en adultes responsables. Alors demain matin, nous aurons encore l'occasion de dire quelques mots à ce sujet. Nous parlerons encore quelque peu de cette vocation féminine, maternelle, extrêmement importante. Et puis bien sûr, comme c'est la fête des pères demain, et que même si nous ne voulons pas être sensibles à l'aspect commercial de cette fête, nous sommes néanmoins les pieds sur la terre et que nous devons profiter de ces aspects-là pour aussi dire notre mot. Inévitablement, nous évoquerons aussi demain matin la présence de papa, parce qu'elle est aussi extrêmement importante. Mais je le redis ce soir, la présence avant les sous, la présence avant le confort, la présence avant la liberté individuelle, la présence des deux, dans vraiment toute la mesure du possible, dans la volonté de Dieu, si nous voulons que la qualité de nos vies d'Église soit transcendante, se démarque de ce que ce monde vit aujourd'hui et que nous ayons vraiment un impact sur la société qui nous entoure. Sinon, nous nous laissons assimiler, nous nous identifions à elle, nous ressemblons au monde. Une église qui ressemble au monde n'est plus une église. Et alors je comprends pourquoi Jésus a posé cette question de son vivant sur cette terre. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est pour moi ma grande préoccupation de serviteur de Dieu dans le ministère. D'avertir l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui dans ce domaine, nous courons en tant qu'Église locale dans certains domaines, souvent de plus en plus à la catastrophe au niveau de notre témoignage, parce que nous sacrifions nos enfants sur l'autel d'intérêts que Dieu ne partage pas. Alors que Dieu nous aide à nous humilier. Et ici, je m'adresse une fois de plus à ceux qui écouteront les cassettes, même s'il y a de la révolte au fond du cœur en disant « il n'y comprend rien ». Faites attention que ce ne soit pas Dieu que vous accusiez de ne pas le comprendre. Dieu est bien plus sage que nous en la matière. Et toute l'histoire de l'Église et toute l'histoire de ce monde jusqu'ici l'a prouvé. D'ailleurs, c'est très simple. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Si ce qui se pratique dans le monde d'aujourd'hui est valable, comment fait-il que cela porte tant de mauvais fruits ?